sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Fanny Cohen-Moreau et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Claire Levasseur et Lucas Derode. La gourmandise ce matin, c'est le début du poème Un fantôme de Charles Baudelaire, pour la beauté évidemment, mais aussi pour la gravité totale et parfaitement assumée de la lamentation. Dans les caveaux d'insondable tristesse où le destin m'a déjà relégué, où jamais n'entre un rayon rose et gai, où seul avec la nuit, maussade hôtesse, je suis comme un peintre qu'un dieu moqueur condamne à peindre. Hélas, sur les ténèbres, où cuisinier aux appétits funèbres, je fais bouillir et je mange mon cœur. Bon, je vous laisse découvrir la suite. Avant de devenir un talentueux conteur à l'imaginaire mythologique, notre apothicaire de l'âme naît en France de parents voyageurs et grandit au Venezuela et au Portugal. Obligé de se déraciner sans cesse d'un pays à l'autre, il se crée une adresse permanente dans la République des Lettres. Après deux masters à la Sorbonne, il consacre un mémoire à Louis Aragon et un autre à Romain Gary. Bouquiniste sur les quais de Seine pendant ses études, il devient par la suite libraire en Argentine, assistant d'édition au Chili et au Venezuela, organisateur d'événements culturels pour la mairie de Caracas et professeur de français à l'endroit exact où nous nous trouvons actuellement, l'Alliance française. En parallèle, il s'adonne au processus alchimique de l'écriture et façonne une œuvre poétique et baroque, ponctuée de réalisme magique et évoquant autant le légendaire que le réel, tout en ayant l'élégance d'embellir ce dernier en le drapant dans un soyeux costume métaphorique. Le dernier roman de ce fabuliste rêveur intitulé « Héritage » est paru chez Rivage et vient d'être récompensé par le choix Goncourt de la Roumanie. Bravo et bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
Miguel Bonnefoy, première question inévitable, quel est votre rapport à la mélancolie ?
Excellent. J'entretiens d'excellents rapports avec la mélancolie. Nous évitons le plus possible. Ah. Oui, nous tentons de ne pas nous voir. Mais c'est pas moi. C'est sans doute elle qui
refuse de vous voir.
Absolument, absolument. Et tu sais
pourquoi ? Parce que ça l'attriste.
Ça doit l'attrister.
vous arrivez à déprimer la mélancolie, Miguel Bonnefoy.
Exactement. Imaginez-vous. Peut-on aller plus bas ?
Peut-on aller plus en profondeur ?
Ah non, mais c'est tout à fait ça. Non, c'est absolument ténébreux. Et d'un autre côté, aussi par humilité, c'est-à-dire que je respecte, je pense beaucoup trop les artistes, les écrivains, les musiciens qui parviennent, en pénétrant à l'intérieur de la mélancolie, à trouver comme ça dans ces galeries souterraines des fleurs sublimes. Moi, je reconnais que dans les rares passages de tristesse que je peux avoir, je m'embourbe comme ça, je rentre dans la fange et j'arrive pas à avoir ce talent concertant de trouver à l'intérieur de cette boue et de ce limon des pépites d'or.
Oui, là vous décrivez vraiment le processus alchimique, l'orpailleur qui va chercher justement dans la gangue ce qui va être de l'or. Mais Miguel Bonnefoy, quand on lit votre dernier roman, Héritage, bon, il y a la violence de l'histoire avec un grand H, la violence des histoires aussi individuelles, et beaucoup de vos personnages, puisque c'est une fresque, on suit plusieurs générations, sont minés par le malheur, par le destin, et dépérissent physiquement. Vous décrivez beaucoup ça, il y a une tristesse inhérente chez presque tous vos personnages.
Absolument.
Vous connaissez cette tristesse ou pas ? On recevait Alice Zénitaire récemment et elle disait qu'elle décrivait très bien la mélancolie mais qu'elle ne l'était absolument pas.
Ah, bon, moi, je rejoins clairement Alice là-dedans. Oui, il y a bien sûr une facilité quelque part à donner des projections, à donner du relief ou de l'épaisseur à des personnages. Et parfois, ce ne sont pas forcément des choses que toi-même tu as éprouvées, que tu as pu vivre. Tu leur fais emprunter des sentiers que toi-même tu ne connais pas. Et il est parfois même plus simple de pouvoir parler de choses qu'on ne connaît pas vraiment, de pouvoir parler par exemple d'un passé ou d'une guerre ou d'une dictature ou d'une torture que tu n'as pas vécue. Et souvent, ne l'ayant pas vécu, tu ne fais pas un travail en effet d'intériorisation, d'introspection dans lequel tu as besoin d'aller chercher certains détails pour toi-même te sauver, pour toi-même te libérer. Ils sont déjà libres, ils sont déjà sauvés, peut-être parce qu'ils ont eu l'élégance de mourir. Donc en effet, toi tu te dédouanes de tout ça et en écrivant, eh bien tu voles avec eux.
frôler la douleur sans s'abîmer soi-même, puisque c'est beaucoup plus difficile de parler, ce qui ne vous empêche pas de vous inspirer des gens autour de vous, Miguel Bonnefoy, comme on le verra tout à l'heure. Mais donc, on va plutôt se réjouir avec vous aujourd'hui, si vous êtes d'accord.
Bien sûr que oui, Inch'Allah.
Inch'Allah, c'est vrai. Mais écoutez, moi j'attends un signe depuis quelques décennies. Dans quelques instants, vous allez convoquer Allah, évidemment, mais Karen Blixen aussi,
oui.
Daniel Boulanger, le groupe Calle 13, Mercedes Sosa, l'Amérique latine, Roger Caillois, de l'étymologie, Bruce Lee et le peintre Jules Romain, juste après un titre de la sélection France Inter, Yel, je veux un chien.
Je veux un chien.
Transparence totale et engagement politique, je dois dire aux auditeurs. Miguel Bonnefoy, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit à l'Alliance française, je pensais à celle de Paris, mais pas du tout. Vous donniez des cours de français à l'Alliance française.
De Caracas, celle voilà. De Chacaito.
Et voilà, la vérité éclate enfin, la vérité révélée par le
dévoilée.
Temps.
Oui, oui, absolument, voilà. Absolument.
Alors passons aux choses sérieuses, si vous êtes d'accord, Miguel Bonnefoy.
Oui, non, naturellement.
Où sont passés tes 10 000 francs? Disparus? 10 000 francs. Un repas de 12 assiettes au café anglais coûte à peu près ce montant. Mais Babette, jamais tu n'aurais dû dépenser tout ce que tu avais pour nous. Je ne l'ai pas fait uniquement pour vous. Oui, mais cela veut dire que tu vas être pauvre pour le reste de ta vie. Nous, les artistes, serons toujours riches.
1987, le festin de Babette du réalisateur danois Gabriel Axel, l'adaptation d'une nouvelle de sa compatriote Karen Blixen, d'abord publiée en anglais en 1950. On entendait Stéphane Audran qui incarne Babette, une Française fuyant la répression de la Commune en 1871, qui trouve un poste de domestique dans un village de la côte danoise. Miguel Bonnefoy, je ne peux m'empêcher de penser à votre dernier roman Héritage, dans lequel un personnage assez énigmatique du nom de Michel René fuit la Commune aussi.
Absolument, il y avait bien sûr un jeu de pont avec le personnage de Michel René qui finalement est une femme, fuit la Commune, se retrouve...
Comme vous y allez.
Oui,
j'essayais de préserver le suspense de votre œuvre.
Non, bien sûr, vous aviez tout à fait raison, en effet. Mais comme je me dis que là, on est en petit comité, on est en famille, non?
On est
entre amis, les amis invisibles, comme disait Borges. Du coup, autant en parler, puisque de toute façon...
Autant lire tout votre livre.
Autant dire qu'à la fin, c'est le majordome qui est l'assassin.
Non, mais arrêtez, ne dites pas ça. Mais je savais que c'était le majordome.
Bueno, quoi qu'il en soit, eh bien, je m'étais dit que ce serait beau de pouvoir faire juste ce clin d'œil avec Gabriel Axel, avec ce magnifique festin de Babette et bien entendu avec cette délicieuse phrase à la fin dans laquelle elle dit « Nous les artistes, eh bien on n'est jamais pauvres, même si on n'a pas une richesse réelle, on a la richesse de l'art, on a la profondeur de l'art et on a du coup cette splendeur qu'il y a dans la cuisine, mais ça peut être dans n'importe quelle autre discipline artistique. »
Et ça, vous le pensez, Miguel Bonnefoy, ou vous essayez de le penser ?
Non, pour être tout à fait honnête, j'y crois. Honnêtement, moi je vis avec très peu de choses, je vis très simplement.
Et vous changez de pays régulièrement ?
Oui, je change de pays régulièrement.
Vous avez peu de possessions ?
Exactement, ma femme est danoise, donc en plus...
Mais ce n'est pas une possession.
Non, bravo. Non, bien entendu, non, mais par rapport à Karen Blix, ce n'est par rapport au festin de Babette, enfin, qui est danoise, donc elle aussi est étrangère ici en France. Moi, je le suis aussi, on a l'habitude de bouger sans cesse, et ça fait... peut-être partie justement de cet exil, de ces migrations, de ces déracinements, de ces voyages et de ces déplacements, d'avoir une forme de richesse qui est celle que nous avons à l'intérieur du cœur. Enfin, je ne vais pas, bien entendu, aller dans le cliché, non, pour pouvoir parler en effet que ce qui était important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais une chose est sûre, c'est que nous, les artistes, on n'est jamais pauvres.
Miguel Bonnefoy, vous avez choisi un film éminemment mélancolique, puisque sans dévoiler toute l'histoire, mais bon, avec l'extrait que vous avez choisi, on s'en doute. Babette est donc une grande cuisinière, elle est au service de deux sœurs dévotes, et en fait, elle joue à la loterie tout le temps, puis un jour, elle va gagner une fortune à la loterie, et grâce à cette fortune, elle va vouloir faire un festin aux villageois, en fait, qui n'ont pas les outils pour recevoir ce cadeau, et qui pensent qu'elle est une sorcière et qu'elle veut les empoisonner.
C'est exactement ça.
C'est aussi l'idée de réception d'une œuvre, finalement.
Oui, c'est joli ce que vous dites. J'aime beaucoup cette lecture que vous faites du film. Moi, j'aime aussi cette idée dans laquelle il y a une forme de sobriété luthérienne, presque protestante pendant tout le film, dans laquelle on est vraiment dans ce minuscule petit village du fin fond des côtes scandinaves, avec ces deux dames qui n'ont rien, qui ne se sont même pas autorisées ou permis l'amour, c'est même pas les richesses de l'amour, et qui ont voulu rester vieilles filles, comme ça, faisant des allers-retours à l'église avec un père pasteur. Et à côté, arrive cette espèce d'explosion carnavalesque de goût, de saveur, du festin, du banquet, un côté presque platonicien, dans lequel on lui propose non seulement de manger, mais également de réunir autour toutes les personnes qui ont compté pour elle. Et en une seule nuit, on décide de faire une sorte de molécule fondamentale du bonheur et de la joie, comme ça, en un seul instant. Donc bien entendu qu'ils ne sont pas pauvres, mais il y a comme ça cette espèce de rencontre entre une sorte de misère et de richesse, et qui tout à coup donne une nuance pâle, qui est celle de l'art et de la vie.
J'aime la maison, mais j'aime l'escalier qui est là, de la maison. J'aime la cave, le grenier. J'aurais que tout le monde ait une maison. Enfin, je plains tous les enfants qui ne connaîtront jamais une maison. Je ne vois pas l'avenir aux maisons, moi, personnellement. Je le regrette, quoi.
L'écrivain, scénariste et acteur Daniel Boulanger sur l'ORTF, le 4 août 1972, on ne résiste pas dans l'émission à l'écoute des voix. Boulanger est l'auteur de votre citation béquille, Miguel Bonnefoy. « Présentez-moi un con, je trouverai l'heure où il ne l'est pas. » Selon vous, il y a de l'intelligence en chacun de nous-mêmes chez ceux qu'on serait tenté de mépriser.
Ah, mais absolument et heureusement. Enfin, j'ai le malheur... Et le mauvais goût d'être un vieil optimiste qui croit en effet qu'à chaque personne que tu rencontres, même le plus grand des cons, il y a un moment, une heure dans sa journée, peut-être dans son travail, peut-être avec ses enfants, peut-être avec ceux qu'il aime, c'est peut-être tout simplement dans une sorte de retraite intérieure où il est génial et sublime. Et je pense en effet qu'un des travaux, ou une des tâches comme ça, un des devoirs peut-être qu'il y a pour nous, c'est de tirer, de souligner cette heure dans la personne et de pouvoir en faire plusieurs heures, enfin, le plus de temps possible. Donc dites-moi, en effet, si chaque personne pouvait penser qu'il y a une heure où il est génial, même le plus grand des cons, peut-être que l'humanité ne serait pas tellement dans la merde, non?
Peut-être.
Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Votre premier antidote musical, Miguel Bonfoy, est un hymne à l'Amérique du Sud. C'est le morceau de 2010, Latino America, du groupe portoricain Calle 13.
Bravo, c'est super accent. On vous oui, croirait bah sorti de Puerto croit, Rico.
On me croirait oui. Sorti de République Tchèque. Je vous en prie, Miguel Bonfoy, merci pour le compliment. Oui. Mais parlez-nous de ce morceau où on parle justement des choses qu'on ne peut voler.
Eh bien, Calle 13, moi je suis allé les écouter plusieurs fois dans plusieurs pays différents, dans plusieurs villes différentes. Je les ai applaudis au Brésil, je les ai applaudis dans le nord de l'Argentine, à Resistencia quand ils ont fait un concert au Chaco, je les ai applaudis à Santiago, je les ai applaudis à Caracas, dans le parc central de Caracas. Et il m'a toujours fasciné, ce chanteur. C'est un portoricain qui en effet avait commencé sa carrière dans le reggaeton classique.
Votre accent n'est pas mal non plus, Miguel.
Merci beaucoup. Il est un peu plus à l'est, plus
oui.
Du côté Balkan.
Non, oui, c'est,
oui, on sent mais vraiment
vous,
la,
va, vous
sur
vous
la
débrouillez.
Pologne. Oui. Quoi qu'il en soit, j'ai vu comment il a changé, comment il a ramifié, comment petit à petit il s'est engagé. Et il lui est arrivé plus ou moins la même chose qui est arrivé à Ernesto Guevara. C'est-à-dire que c'était un enfant d'une bourgeoisie argentine qui finalement fait un voyage en Amérique latine, voit les exactions, voit les malheurs, voit les injustices, voit les horreurs et décide alors de dédier sa vie à l'engagement politique. Eh bien, même spectacle pour Calle 13, il décide de vouer toute sa musique à l'engagement politique et fait Latin America, dans lequel il essaye de montrer comme une sorte de poème homérique. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine? Yo soy lo que me dijeron, yo soy mis padres, yo soy los santos en mi cuello. Yo soy el viento que peina mi cabello. Je suis toutes ces choses. On ne peut pas nous vendre. On ne peut pas nous acheter. Le soleil, la pluie, le vent, les rivières, les fleuves. Nous sommes un peuple digne qui se dresse devant les systèmes hiérarchiques de l'impérialisme.
Justement, Miguel Bonfoy, vous êtes vous-même un écrivain engagé, mais à travers la poésie, c'est-à-dire que vous le faites par le biais de métaphores. Vous parlez du Venezuela dans Le Voyage d'Octavio, dans Jungle et dans Sucre Noir. Ce sont les Français au Chili qu'on suit dans Héritage, votre dernier roman. Comment parleriez-vous de votre engagement ?
À mon humble niveau, et c'est un engagement qui n'est pas encore frontal, et j'espère en effet qu'avec le temps je vais pouvoir m'améliorer, je vais pouvoir me perfectionner, je vais pouvoir mieux écrire pour pouvoir justement faire des livres qui soient plus engagés à un niveau comme ça, plus participatif et parlementaire du terme. Mon père est un homme qui a un engagement réel, c'est-à-dire qu'il écrit des livres qui sont essentiellement engagés politiquement.
Votre père a fui la dictature de Pinochet et il faisait partie...
Du MIR, voilà. MIR, donc Movimiento de Izquierda Revolucionario, mouvement d'extrême gauche révolutionnaire, faisait partie du MIR, est arrêté à Villa Grimaldi, est torturé et ensuite envoyé dans une prison commune. Ensuite, il est exilé et arrivé en tant qu'exilé politique, en tant que réfugié politique ici en France, et décide en effet d'écrire des livres qui sont essentiellement engagés. Moi, j'ai énormément de respect pour cette plume en espagnol qui est beaucoup plus acide, beaucoup plus aride, beaucoup plus tranchante, beaucoup plus pointue que la mienne, qui la mienne, bien entendu, est déteinte de cette tropicalisation que ma mère a apportée, puisqu'elle vient d'un pays du Venezuela, donc beaucoup plus caribéen, dans lequel on se permet davantage de contes, de fables, de mythes, de métaphores autour pour pouvoir parler des réalités. On va prendre des chemins de traverse comme ça, un peu périphériques. Pour l'instant, Mon écriture, j'essaie bien entendu qu'elle soit engagée, car je n'imagine pas l'art s'il n'est pas au service d'une cause plus haute et plus noble et qui me dépasse moi-même. Mon ego n'est pas suffisamment développé pour être en train de dire « je vais essayer de me demander si dans mon cœur il y a 9 ou 11 dimensions ». Non, au contraire, je vais voir si je peux en effet, avec l'écriture, pouvoir élever quelque chose que moi, je n'arriverai pas à dresser. Et ça, ça se fait justement, ou du moins je le fais aujourd'hui, par des histoires. Peut-être avec un peu de chance, un jour, j'arriverai davantage au pamphlet.
En 1978, Solo le pido a Dios par Mercedes Sosa, surnommée la voix de l'Amérique latine ou celle du peuple silencieux, chanson écrite par le chanteur argentin León Gieco et inspirée des événements sociaux de l'époque, la dictature militaire, l'exil de Mercedes Sosa et le probable conflit de guerre entre le Chili et l'Argentine. C'est un chant contestataire de résistance, de révolte que vous avez choisi, Miguel Bonnefoy.
Absolument, c'est tout à fait ça, et en même temps d'une très grande poésie, c'est-à-dire ce n'est pas le célèbre chant de Quilapayún ou de Inti Illimani dans lequel il y a 14 hommes sur une scène qui crient « El pueblo unido jamás será vencido »
et qui répétait dans des foules. Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
Exactement, et qui répétait dans des milliers de foules comme ça en même temps, en hissant des drapeaux dans la marée rouge du siècle, tu vois, qui avance devant les dictatures.
Mais là, elle demande à Dieu qu'aucune douleur ne la laisse indifférente.
Et moi, c'est je trouve ça une poésie immense. Si je demande à Dieu qu'une seule chose, et elle le demande à elle, mais bien sûr, elle le demande à tous les cœurs, elle le demande à tous les hommes et toutes les femmes, que la douleur ne lui soit pas indifférente, que la violence ne soit pas devant elle banalisée, que les choses qui sont horribles, qui sont en train de se passer, ne deviennent pas une monnaie courante qui peuvent en effet entrer dans une liquidité, une fluidité de la contemporanéité sans se rendre compte qu'elles sont horribles.
Bien sûr, mais en même temps, on est à chaque seconde abreuvé des événements tragiques qui se passent autour de nous. Miguel Bonnefoy, c'est difficile de ne pas y être sensible. Si on ne se blinde pas un minimum, je veux dire, comment fait-on ? On est transpercé de douleur chaque seconde.
Et c'est absolument ça, et je le comprends absolument, et moi j'en fais partie comme vous, et c'est tout à fait humain et naturel. C'est peut-être pour ça que la chanson est si belle, parce qu'elle n'est pas en train de dire « je demande à l'homme que la douleur ne me soit pas indifférente », mais elle dit « je demande en effet à des instances plus célestes et supérieures, je demande à Dieu qui peut-être ou sans doute n'existe pas dans cet instant, que lui m'envoie ce message ». Que la douleur n'est pas indifférente.
Nous frôlons la transcendance en toute simplicité dans cette émission avec vous, Miguel Bonnefoy, et nous serons bientôt pris d'un émerveillement étymologique juste après un standard de la playlist France Inter, William Scheller, Comme je m'ennuie de toi.
Ce n'est pas que le temps soit plus mauvais qu'hier, mais je préfère rester chez moi à me parler de toi. Comme je m'ennuie de toi. Comme je m'ennuie de toi. Ce n'est pas que mes amis m'abandonnent, je les fatigue au téléphone à leur parler de toi. Comme je m'ennuie de toi. Comme je m'ennuie de toi. Tu m'as dit sors un peu et va au cinéma pendant que je ne suis pas là, mais je n'y verrai que toi. Oh, oh, oh. comme je m'ennuie de toi. Comme je m'ennuie de toi.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Miguel Bonnefoy et du fantôme de Roger Caillois.
Le monde est symétrique et les objets du monde sont symétriques. Mais les pierres ne le sont pas, enfin les cailloux surtout. Quand ils sont cassés, ça ne change pas leur nature minéralogique. Une pierre, même en morceaux, est entière au point de vue chimique. Dans chaque morceau, il y a des qualités, les qualités permanentes de l'espèce minérale. Nous avons donc des corps absolument réguliers, commencé par le prisme hexagonal qui est le plus courant. Mais où on peut aller vers des figures beaucoup plus complexes.
L'écrivain, sociologue, critique littéraire et traducteur de Borges en français, Roger Caillois, dans l'émission Variance en 1974 sur l'ORTF, c'est l'auteur de votre onguent littéraire, Miguel Bonnefoy, ouvrage poétique paru en 1966, Pierre au pluriel, puisque dedans l'auteur parle de sa fascination pour les minéraux et il les dévoile majestueux, merveilleux, magiques, voire même érotiques. On trouve des pierres volantes, des pierres carnivores, des pierres qui empêchent les chiens d'aboyer, des pierres qui ont des enfants. C'est extraordinaire comme texte.
Oui, complètement. Non. Il y a un avant et après. En découvrant ce texte, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi plier l'écriture à une simple promenade et une simple errance à l'intérieur des chemins scintillants et mystérieux qu'il y a dans une pierre qui n'est pas plus grosse qu'un grain de poussière. Et on y fait, avec Roger Caillois, une randonnée mystique.
Comment avez-vous découvert ce texte en 1935, Caillois rompt avec le surréalisme. Il publie une lettre ouverte à André Breton, comme à peu près tous les gens qui sont à coquiner avec André Breton, qui avait l'air d'avoir un tel caractère.
Oui, sauf Julien Gracq.
Oui. Et il se rapproche de Zara et d'Aragon, sur lequel vous avez écrit. Est-ce que c'est comme ça que vous avez croisé ce texte?
Non, je suis passé tout à fait à côté. Tantôt, en travaillant sur Aragon, alors moi j'avais davantage travaillé sur le monde réel, mais en effet je m'étais beaucoup intéressé au Aragon surréaliste, qui était infirmier avec André Breton dans la Première Guerre mondiale, qui voyait les corps déchiquetés arriver en effet dans l'infirmerie, et du coup il a finalement fait une analogie avec le texte, avec la phrase. Il a dit qu'il fallait déchiqueter la phrase, la fragmenter, la morceler comme les corps qu'il voyait, et donc d'imaginer le surréalisme, non ? Comme ça, sous bien sûr le patronage de Apollinaire et l'autre Éamon derrière, comme ça, non ? Qu'il les appelait déjà avec cette espèce d'anatomie morcelée. Parallèlement à ça, il y a également, j'aime beaucoup Marguerite Yourcenar, et Marguerite Yourcenar, c'est elle qui finalement prend la chair de Roger Caillois lorsqu'il meurt à l'Académie française. Et donc, il y avait également là une piste pour pouvoir entrer dans Roger Caillois. Et je l'ai pas...
Vous êtes entré dans Roger Caillois. Miguel Bonnefoy.
J'aurais adoré. C'est lui, sans doute, qui aurait refusé.
Oui, comme
ça,
la mélancolie.
Oui, voilà. Moi, je l'ai suivi partout. Il m'a fuyé. Que voulez-vous ? Ça doit être, en effet, l'excès d'amour. Et ça a été plutôt, en effet, par des amis, et des designers à la Villa Médicis.
Oui, vous avez séjourné comme pensionnaire.
Absolument. Les designers Stéphane Villard et Gaël Gabillet qui m'ont tendu ce texte en disant « Écoute, peut-être ça peut t'intéresser comme ça dans des moments de oisiveté. Tu peux te promener parmi les pierres, mais non pas les pierres qu'on retrouve dans des bijoux, non pas des pierres qu'on retrouve dans des stèles, non pas des pierres qu'on retrouve dans les cimetières ou sur lesquelles les grands rois ont inscrit leurs grands exploits. Non, les pierres qui dorment dehors sous la nuit des filons, qui prennent la pluie et la bourrasque et qu'on ne connaît pas et qui n'attestent qu'elles-mêmes, qui ne perpétuent que leur propre mémoire. »
Mais vous le connaissez par cœur,
non,
ce
non,
texte.
Non.
Vous le paraphrasez.
Je le paraphrase.
C'est parce que je sais que Roger Caillois, à un moment, dit « Les pierres s'attestent elles-mêmes, tout
elles
simplement. »
Elles n'attestent qu'elles-mêmes.
Oui. Et alors, il se montre cependant très critique avec les agates. Je me suis mis à la place des agates et je me suis senti personnellement visée par ces critiques.
Alors, il est dur, bien
il
sûr,
dur avec
les agates, parce qu'il est dur avec les choses qu'il aime, comme on est dur avec les gens qu'on aime. Je pense que peu d'hommes ont autant écrit sur les agates, et dans toute pierre de Roger Caillois, sans doute le plus grand nombre de pages est sur les agates. Et il parle que parfois, On peut trouver dans des agates, parce qu'on disait en effet au IIe siècle chinois qu'on pouvait trouver à l'intérieur des agates, elles étaient si pleines de perles, si scintillantes, elles étaient si attirantes qu'on pouvait y trouver à l'intérieur des animaux, des étoiles, des paysages, des arbres. Et qu'en prenant une agate, si on la bougeait très près de l'oreille, on pouvait entendre parfois une petite eau qui frappait dans les parois, une eau avant l'eau, une eau qui ne connaissait ni les rivières, ni les océans. C'était tout à coup une matière qui était devenue liquide à l'intérieur, au cœur de la pierre, et que si on ouvrait cette pierre, si on essayait d'ouvrir la pierre juste avec même une épingle qui serait du diamètre d'un cheveu, cette eau immédiatement s'évaporerait parce qu'elle est là depuis des millions d'années.
Miguel Bonnefoy, vous vous souvenez ou vous imaginez ?
Non, je n'imagine pas du tout, hélas. J'aimerais beaucoup avoir eu
mais
cette idée.
Mais vous pourriez.
Une chose est sûre, c'est que cette goutte d'eau enfermée à l'intérieur d'une agate m'obsède absolument.
Est-ce que vous auriez un extrait à nous lire de ce livre, vous qui, chez qui les pierres aussi reviennent, mais d'ailleurs dans votre dernier livre, Écrire la Villa Médicis, Héritage, vous dites d'ailleurs à son sujet, ce livre est bourré de clins d'œil, plein de pierres d'attente, ces pierres que je pose pour les livres à venir ou ceux d'avant, afin que l'ensemble constitue un tout cohérent, je ne fais que commencer, je pose des pierres. Et dans Héritage, il y a une autre collection, ce n'est pas, elle n'est pas composée de pierres, elle est composée d'oiseaux.
Bravo.
Mais décrit avec le même plaisir dans la volupté du langage que les pierres de Caillois.
Alors, eh bien, ce sont deux choses différentes. C'est par rapport aux oiseaux, on pourra parler tout à l'heure de structure narrative, de ruse narrative pour pouvoir constituer un échafaudage de personnages et annoncer des choses pour le lecteur. Autre chose, en effet, ce sont les pierres d'attente, les pierres en harpe d'une construction. Et là, en effet, on sera en train de parler de quelque chose de beaucoup plus global qui a à voir avec les livres qui sont à venir et que je n'ai pas encore écrit. Et j'espère qu'on me donnera la santé et le temps pour pouvoir les écrire. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle maintenant.
Cher archéologue, je voudrais que vous nous lisiez un bref extrait.
Eh bien, nous avons deux options.
Alors, la deuxième.
Bravo.
C'était la bonne réponse.
Oui, c'était la bonne réponse. Alors écoutez, vous savez quoi, j'avais prévu de vous lire la préface, en effet, qui est sublime.
Oui.
Mais puisque vous m'avez poussé dans un précipice de pierre, de calcaire et de nature, eh bien, je suis tout à fait obligé.
Oui.
De vous lire du coup ce passage de l'eau dans la pierre,
oui.
Parce que je n'avais pas prévu de parler de cette goutte d'eau à l'intérieur d'une agate, et j'insiste.
On vous écoute, Miguel Bonnefoy, personne ne s'oppose à vous.
Parfois, un nodule d'agate de dimension modeste, sous-pesé, paraît anormalement léger. On sait alors qu'il est creux et tapissé de cristaux. Si on le secoue près de l'oreille, il arrive, mais très rarement, qu'il fasse entendre un bruit de liquide battant les parois. À coup sûr, une eau l'habite, demeurée prisonnière dans une geôle de pierre depuis le début de la planète. Le désir naît d'apercevoir cette eau antérieure. Assurément, cette eau secrète qui, de l'eau, n'a jamais que l'apparence. À la plus légère fissure, à la plus première percée, fut-elle plus mince que cheveux, elle fuse et se volatilise en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Seule une pression extraordinaire la maintenait liquide. Le moindre issu lui suffit pour disparaître sur le champ, évaporée en un éclair après la plus longue réclusion.
Pierre Roger Caillois, lu par vous, Miguel Bonnefoy, un texte magnifique dans lequel on trouve des mots précieux, rares, comme saxifrage ou sélaginelle. Et justement, on parle de son vocabulaire élaboré, l'activité qui vous grise. Miguel Bonnefoy aurait sans doute plu au poète, puisqu'il s'agit de trouver l'étymologie d'un mot. Quels sont vos derniers émerveillements ?
Ah oui, alors il y en a quelques-uns, absolument. Il n'y a pas longtemps, je me suis tatoué.
C'est vrai ?
Oui, je me suis tatoué une longue phrase de Juvénal dans le dos.
Sur le front, mais
oui, sur le front, mais comme je porte
oui,
aujourd'hui...
Une casquette.
Une chapka.
Une chapka.
Une chapka.
Allez-y, Miguel Bonnefoy.
Ouais, quoi qu'il en soit, en effet, eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert donc l'étymologie du mot sidera.
Sidera comme la sidération ?
Exactement, comme la sidération, et qui est tout simplement un ensemble d'étoiles, un amas d'étoiles qui scintillent comme ça sur plusieurs lueurs différentes et qui finit par illuminer les choses, mais par des focus différents. Et finalement, ça a donné aussi le mot « considérer », puisqu'on considère les choses selon plusieurs points de vue. Et je trouve ça très beau, parce que ça montre à quel point il faut avoir l'humilité de savoir que, eh bien, on ne sait pas grand-chose, qu'on n'a pas un avis, une opinion tranchée sur les choses, et que finalement, on ne peut comprendre, eh bien, un véritable problème que si on l'observe sous la lumière étrange d'une agate ou d'une pierre, comme un kaléidoscope qui va diviser la lumière et te donner une considération de l'ensemble.
Donc, sidération.
Exacto, sidera. Mais bueno, il y en a tant d'autres. Je pense au mot obèse, qui en effet vient de obesus, qui veut dire très maigre.
Ah oui?
Mais que les Romains, étant malins, ironiques et intelligents, à chaque fois qu'ils voyaient passer un gros, ils disaient « Regarde le très très maigre qui va là, regarde l'obésus qui passe ».
C'est
finalement,
donc,
en effet,
une étymologie
le mot
ironique.
Ironique, qui finalement. Et c'est assez beau parce que l'étymologie finalement parle des peuples. Et en étudiant l'histoire des mots, tu étudies aussi le comportement, les mœurs, les traditions et parfois même les nuances sarcastiques et cyniques d'un peuple dont on croyait tout connaître.
J'ai découvert récemment livide et je me suis rendu compte que ça voulait dire sombre. Alors qu'on pense toujours que le teint est pâle, mais c'est arrivé au 19e siècle. Et glauque, pareil, glauque, c'était pas du tout un défaut. Ça pouvait être la couleur des yeux d'Athéna, c'était bleu-vert comme la mer.
Ah bah voilà, tu vois, c'est délicieux de se rendre compte, en effet, que l'étymologie peut elle aussi renfermer des contradictions oxymoriques, et que finalement, l'étymologie d'étymologie, puisque étymo veut dire tout simplement le vrai sens.
Je vais m'évanouir de cette mise en abîme.
C'est une mise en abîme, oui, c'est un jeu de miroir,
oui.
c'est un trompe-l'œil.
Oui.
Eh bien, qui veut dire
une
le
fractale.
Vrai sens. Donc, bravo. Donc, en effet, c'est le discours du vrai sens. Donc, finalement, est-ce que livide n'est pas le vrai sens? Est-ce qu'obèse n'est pas le vrai sens, etc. Enfin, voilà,
est-ce que la vérité
existe? Ce jeu. C'est tout à fait ça. On est dans la transparence, dans les fantômes. On est finalement dans les remèdes à la mélancolie.
Et dans X-Files. Et on va parler anglais. Puisqu'on parle toutes les langues dans cette émission, juste après un morceau de la playlist France Inter, Jarvis Cocker, Swanky Modes, des modes chic.
There was this shop called Swanky Modes, just off the top of the Camden Road. You walked past, I recognized you. You screwed a guy, then you killed him after. In a film I had seen about a week before. Way, way, way back in the days of yore.
So glad that I said tonight to the bed, but you were on there trying to keep the dream alive. You try to keep life at a safe distance, but it's futile to offer resistance. So how about you get on this?
Remède à la mélancolie sur France Inter avec l'écrivain Miguel Bonnefoy et Bruce Lee.
This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Vide ton esprit, sois sans forme, informe comme l'eau. Vous mettez l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Vous mettez l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Vous mettez l'eau dans une théière, elle devient une théière. L'eau peut couler ou elle peut tout fracasser sur son passage. Sois comme l'eau, mon ami. La célèbre réplique que Bruce Lee a écrite pour son propre rôle dans la série américaine Longstreet en 71 et qu'il reprend dans une interview pour la télévision canadienne la même année. Be water, my friend, votre idée anti-spleen, Miguel Bonnefoy. Arrivez-vous à être comme l'eau, arrivez-vous à vous adapter aux choses Cela demande-t-il un entraînement ou les choses vous affectent-elles de façon spectaculaire ?
Eh bien, j'ai été quelque part obligé de m'adapter aux choses, puisque depuis que je suis tout petit...
Vous êtes un exilé
exactement,
permanent ?
Absolument, de partir de frontière en frontière, de ville en ville, de capitale en capitale, de langue en langue, de culture en culture, climat en climat. Donc fatalement, lorsque tu es petit, tu trouves qu'il y a une cruauté là-dedans, et puis petit à petit... Si on te met dans un teacup, tu deviens une teacup. Si on te met dans une bouteille, tu deviens une bouteille. Si on te met dans un nuage, tu deviens un nuage. Et Be Water, My Friend, très rapidement m'a accompagné au cours de ces différentes pérégrinations, de ces mouvements et de ces déplacements. Et ça m'a permis, en effet, à chaque fois, de pouvoir m'adapter aux différentes situations. Donc, bueno, était fatalement, il a fallu que je le fasse par élimination. Et ensuite, je me suis dit, petit à petit, en écrivant, que ce serait beau d'y voir une analogie avec l'écriture, mais peut-être que nous n'avons pas le temps pour ça.
Ça dépend. Est-ce que vous voulez parler des géants qui essayent d'accéder à Zeus ou pas du tout, Miguel Bonnefoy ? Oui, vous en avez envie.
Exactement, oui, j'avais tout à fait pensé
bon,
à ça.
Alors, on en parle. Madrigal du compositeur italien de la fin du XVIe siècle, Donna Vostra Mercede de Giovanni per Luigi da Palestrina, car nous voulions rentrer musicalement dans le siècle qui a vu l'apogée et la mort de l'artiste que vous avez choisi pour l'émission, Miguel Bonnefoy, le peintre, architecte et décorateur italien Giulio Romano, l'un des premiers artistes maniéristes de la Renaissance, élève de Raphaël et auteur de votre œuvre d'art consolatoire, la fresque représentant la chute des géants, réalisée entre 1532 et 1535, et qu'on peut voir au Palazzo Te à Mantoue en Lombardie, édifice conçu par Jules Romain d'ailleurs, et je vous laisse la VO, moi je dis Jules Romain. C'est un épisode mythologique tiré de la littérature latine, dites-nous ce que ça représente.
Oui, eh bien, alors déjà pour accéder à la chute des géants de Giulio Romano, il faut en effet arriver à Bologne, de Bologne tu vas à Mantova tu trouves le Palazzo Te, tu pénètres dans le Palazzo Te, tu passes par des salles magnifiques, et en effet à la fin, après la salle des vents et la voûte céleste qu'a également peint Giulio Romano, tu trouves cette chute des géants, dans laquelle ce n'est pas un tableau, mais c'est une chambre entière qui est peinte, avec en haut l'Olympe, tous les dieux, et les géants qui ont essayé, à un moment, au début de la mythologie, avant la guerre des titans, de se hisser jusqu'aux dieux pour pouvoir les tutoyer, et les dieux alors les ont fait tomber, les ont fait chuter. Et ce qui est magnifique, c'est que tu ne vois pas l'ascension. Dans Giulio Romano, tu vois seulement cette chute. Les dieux sont minuscules là-haut, tu les vois à peine, mais tu vois ces corps immenses, ces espèces de kilomètres de chair, de papier et de peinture qui semblent tomber avec le ciel.
C'est très très impressionnant et on peut le voir sur internet. Il y a des sites qui proposent des vues en immersion et c'est très impressionnant même sur un écran.
Très impressionnant, vraiment impressionnant.
Miguel Bonnefoy, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Je rappelle que votre dernier livre, Héritage, est paru aux éditions Rivage et vient d'être primé par le Choix Goncourt de la Roumanie. Signalons aussi que votre recueil de nouvelles Naufrage a été réédité en poche aux mêmes éditions en août dernier. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission, nous, sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme a maintenant l'impétuosité d'un gant de toilette fantastique. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.